BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
11h passé de 4 minutes, on est un petit peu en retard. Dans un instant, on parlera des banques centrales. Jérôme Powell prend la parole dans les prochaines heures. Que faut-il en attendre, notamment après la publication des chiffres de l'emploi vendredi aux États-Unis? Quelles sont les anticipations du marché? On en parlera avec Vincent Juvins de JP Morgan Asset Management. Mais d'abord, la séance en cours à la Bourse de Paris. Le CAC fait du surplace. Plus 0,09%, on va en parler avec Sarah Thirion, stratégiste action chez Tipeee iCap. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un mot sur cette séance. D'abord au global, c'est vrai qu'on reste très très bien orienté depuis le début de l'année, hein, pratiquement 10% de hausse.
On a eu effectivement un début d'année porté par pas mal d'espoir, pas forcément faux, mais la perspective effectivement d'une décélération de l'inflation, d'un atterrissage en douceur de l'économie, la réouverture en Chine, la possible normalisation ou temporisation des mouvements des banques centrales transatlantiques, voilà, qui portait effectivement l'espoir d'un retour à meilleure fortune. Ces éléments ne sont pas tous contredits, mais le fait est que on a eu vendredi dernier donc le rapport mensuel de l'État, de l'emploi aux États-Unis pour le mois de janvier, qui témoignait d'un taux de chômage au plus bas depuis 1969, d'une hausse des emplois non agricoles qui était très structurante, et finalement d'une inflation salariale qui était un peu plus élevée que ce que les gens n'imaginaient. Ce qui, bien évidemment, a entraîné depuis hier quelques prises de profit et aujourd'hui beaucoup d'attentisme en amont, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une intervention de Jérôme Powell, qui en revanche n'interviendra qu'à 18h, ce qui veut dire qu'on n'aura pas du tout cette coloration pour la journée, en tout cas sur les bourses européennes. Il faudra attendre évidemment de voir la réaction sur les marchés américains. Et tous les investisseurs de surveiller au travers de cette allocution un signe éventuel d'inflexion sur la teneur de des hausses de taux à venir. Pour l'instant, les marchés prévoient que le taux de référence de la Fed culminera à 5,1% d'ici le mois de juillet. C'est conforme à ce que répètent les responsables des banques, de la Fed. Mais hier soir, on a eu une intervention de Raphaël Bostic qui a dit finalement que la statistique mensuelle de l'emploi signifiait possiblement qu'il y avait encore un peu de travail à faire pour parvenir à rejoindre la cible sur l'inflation qui, je le rappelle, est de 2%. Donc on est dans une séance de transition aujourd'hui et on aura probablement demain une lecture plus précise de ce discours, en tout cas dans les marchés européens.
On va s'intéresser au titre BNP Paribas. C'est l'heure des résultats pour les banques françaises. Plus de 10 milliards d'euros de bénéfices pour 2022, avec toutefois un quatrième trimestre qui était un petit peu plus faible que prévu.
Vous avez raison. Les revenus nets sont ressortis en progression de près de 8% sur le quatrième trimestre. En revanche, le résultat net, il est ressorti un peu en dessous des attentes et en baisse sur une hausse du coût du risque, puisqu'on évolue quand même dans un environnement qui est incertain. En revanche, cette déception sur le quatrième trimestre, qui finalement n'est qu'un rétroviseur, est complètement effacée ce matin. Et le groupe BNP Paribas, le titre BNP Paribas est surperformeur aujourd'hui et tout en haut de l'indice CAC 40, puisque d'une part, le groupe a révisé à la hausse ses ambitions 2025. Il table maintenant sur une croissance moyenne annuelle du résultat net de 9% par an d'ici 2025 contre 7% précédemment. Et il table par ailleurs sur une rentabilité des fonds propres à environ 12% en 2025 contre 11% précédemment, puisque le groupe a annoncé donc 300 millions d'euros d'économies supplémentaires, ce qui porte son objectif de réduction de coûts à 2,3 milliards d'ici 2025. Cerise sur le gâteau, BNP a également annoncé un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros qui sera réalisé cette année suite à la cession de Bankwest. Et ça permet effectivement au titre de s'extraire par le haut ce matin, en dépit d'un quatrième trimestre qui était un peu inférieur aux attentes.
Merci beaucoup Sarah Thirion, stratégiste action chez Tipeee iCap. 11h08, l'essentiel de l'info éco.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Rebonjour Stéphanie.
Rebonjour Stéphane. À la une, le déficit commercial se creuse encore en 2022 à 164 milliards d'euros. C'est 78 milliards de plus sur un an. En cause, la crise énergétique qui a fait exploser les importations de gaz, de pétrole et d'électricité. C'est une nouvelle année record pour BNP Paribas. La banque dépasse la barre des 10 milliards d'euros de bénéfices nets en 2022, en hausse de 7,5%. Le groupe révise à la hausse ses objectifs, à savoir une croissance moyenne de son bénéfice de 9% par an d'ici à 2025, contre 7% précédemment. La banque dit ne pas être intéressée pour acquérir une participation dans Orange Bank. Notez que Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP Paribas, sera l'invité de Good Evening Business ce soir à partir de 19h15. Chez le britannique BP, le bénéfice hors éléments exceptionnels a plus que doublé sur un an à 27,7 milliards de dollars, dopé par le cours élevé des hydrocarbures, mais la major pétrolière publie une perte nette de 2,5 milliards de dollars, plombée par la sortie de Rosneft après la guerre en Ukraine. Mauvaise nouvelle pour SoftBank, le japonais publie une perte surprise de 5,5 milliards d'euros au troisième trimestre, plombée là par le ralentissement dans le secteur de la tech dans lequel SoftBank a massivement investi. Du côté de Nintendo, on s'inquiète des ventes de Switch et des taux de change. En conséquence, le groupe dégrade ses prévisions annuelles et vise une chute de plus de 22% de son bénéfice net à 2,6 milliards d'euros. Nintendo qui voit ses ventes reculer de 5,6% sur l'année. Boeing va supprimer 2000 postes de cadres selon le Seattle Times. Ça va se faire via un plan de licenciement et des départs naturels. Le mois dernier, le groupe annonçait le recrutement de 10 000 employés cette année. Le groupe met en avant certains services trop bureaucratiques et inefficaces. Après 25 années de vie commune, Renault et Nissan redéfinissent leur mariage. Et c'est au sein de l'alliance qu'on parle de rééquilibrage. Pour les analystes, Renault sort perdant de ce deal. Luca De Meo est venu défendre la nouvelle stratégie du groupe. Le directeur général de Renault était l'invité de Good Morning Business ce matin.
Et en fait, c'est le temps qui va donner raison à l'un à l'autre, parce qu'on a bien l'intention avec Nissan et Mitsubishi de faire des choses. D'ailleurs, par exemple, ce nouveau contrat va permettre d'amener des voitures de Nissan et Mitsubishi produite en France, dans les usines de Renault. Donc ça, c'est du concret.
Et puis c'est aujourd'hui la troisième journée de mobilisation en moins de deux semaines contre la réforme des retraites. Le trafic est très perturbé dans les métros, RER et trains. Le mouvement est aussi très suivi dans le secteur de l'énergie. Les expéditions de pétrole sont interrompues depuis les sites de Total Energy. Et puis chez EDF, on constate aussi des baisses de production d'électricité, mais pas de coupure, Stéphane.
Merci beaucoup, Stéphanie Collo. Tout de suite, l'œil de l'expert.
BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège.
Du stratège, pour être précis. Vincent Juvin, c'est avec nous en plateau. Bonjour.
Bonjour Steven.
Stratégiste macro global chez JP Morgan Asset Management. Jérôme Powell va s'exprimer en fin de journée, 18h je crois, après la réunion de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous attendez de sa déclaration ?
Finalement, pas grand-chose. Je pense que le cap est donné et quelque part, les chiffres de l'emploi, les chiffres macroéconomiques, finalement, confortent la Fed dans l'idée que ce qu'elle a réalisé jusqu'ici, eh bien, a mené à un atterrissage en douceur de l'économie américaine. On l'a encore vu dans les chiffres de l'emploi, ce qui est en train de se passer, ce qu'on n'attendait pas il y a encore 6 mois, 1 an. Personne pensait qu'il était possible de resserrer la politique monétaire aussi violemment, aussi rapidement, sans entraîner une forte récession. On pensait d'ailleurs que cette forte récession était absolument nécessaire pour contraindre les pressions inflationnistes. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est que ces pressions inflationnistes, elles retombent vite. On attend même une inflation qui devrait converger vers les 3% d'ici la fin de l'année aux États-Unis. On a un marché de l'emploi qui ne faiblit pas, mais qui ne génère plus autant de pression salariale qu'auparavant. Il y a finalement un rééquilibrage, en tout cas du rapport de force entre employeurs et employés sur le marché du travail américain, qui est plutôt de bon augure, puisqu'on voit Peut-être beaucoup de licenciements pour l'instant, mais beaucoup finalement de gens qui retrouvent assez rapidement une place sur le marché du travail, notamment auprès des petites et moyennes entreprises, et que finalement ce rééquilibrage dans l'économie américaine est de bon augure pour les semaines et les mois à venir. Néanmoins, évidemment, le commentaire du jour sera évidemment très suivi par les bourses, dans la mesure où ce qui s'est passé l'an passé, c'est un petit peu la fin de ce concept de forward guidance, où les marchés quelque part étaient, en tout cas, drivés par le cap que donnait très clairement la Banque centrale, autant aux États-Unis qu'en Europe. On a laissé tomber cette communication très claire sur la direction de la politique monétaire, et donc les marchés en sont réduits à finalement suivre chaque séance de communication avec davantage d'attention. Je dirais que c'est ce qui prévalait en tout cas dans cette période de forward guidance.
Mais d'un point de vue pratique, on va dire, Jérôme Powell, il est coincé entre la réunion officielle de la semaine dernière du FOMC et la publication des minutes dans quelques jours.
Tout à fait, et quelque part je pense qu'il n'y a pas lieu à surenchérir en termes de communication, très, très franchement. Je pense que les données qui ont été publiées aujourd'hui, depuis la dernière réunion de la FED, finalement doivent conforter Jérôme Powell dans le cap qu'il s'est donné de réduction, en tout cas de l'amplitude des hausses de taux à venir pour la Réserve fédérale américaine. Et je comprends qu'on demeure évidemment sur les marchés, on continue à s'interroger sur à la fois le rythme de hausse et le taux terminal. Évidemment, dans les cercles économiques, c'est d'autant plus important. Cette question philosophique, est-ce que la Fed s'arrêtera à 5, 5,25 ou 5,5? Mais en termes économiques, je pense qu'il est quand même important de se dire que la Fed, elle a réalisé l'essentiel du travail en 2022. Les vents monétaires seront sensiblement moins contraires en 2023. Et quelque part, et lorsque je vois le CAC 40 aujourd'hui, ou la bourse américaine depuis le début de l'année, et même, en tout cas, la partie plus croissante de la bourse américaine, le Nasdaq, clairement, les marchés anticipent finalement des taux qui vont plafonner et qui vont potentiellement commencer à baisser, en tout cas sur les taux longs. Donc, encore une fois, les vents monétaires, les vents contraires en provenance des marchés de taux le seront moins en 2023. Et ça, je pense que pour les investisseurs, c'est particulièrement important.
L'inflation reste une préoccupation. Ça, c'était le message qui a été délivré très clairement la semaine dernière.
Oui, néanmoins, lorsqu'on voit les extraordinaires chiffres de l'emploi publiés vendredi dernier et que dans le même temps, on est une baisse, mais une baisse en tout cas depuis déjà plusieurs publications de la progression des salaires, c'est quand même de bon augure. Il y avait un chiffre qui était particulièrement interpellant pour Jérôme Powell, c'était le nombre d'emplois vacants par rapport au nombre de demandeurs d'emploi.
On avait le chiffre JOLTS, je crois.
Voilà, on avait au plus haut deux offres d'emploi pour chaque demandeur d'emploi, ce qui créait finalement une distorsion sur le marché du travail, dans finalement le rapport de force entre employés et employeurs. Aujourd'hui, on n'est pas retombé à des niveaux pré-crise, mais enfin, ça rebaisse quand même assez sensiblement. Depuis le début de l'année, on a des licenciements en cascade, sans pour autant avoir un taux de chômage qui remonte. Donc, on est en train de voir finalement cet effet de balancier s'opérer, où des grandes entreprises qui avaient capté des forces vives de la nation, qui payaient évidemment très très bien les grands groupes de la tech, sont aujourd'hui en train de se séparer d'une partie de leurs travailleurs, et ceux-ci viennent irriguer les autres pans de l'économie américaine qui avaient des difficultés à engager. Prenons la situation en France, combien de PME ne sont pas désespérés pour engager les responsables informatiques aujourd'hui? C'est la même chose aux États-Unis, lorsqu'on voit finalement que ces grandes entreprises avaient capté ces forces vives. Il y a aujourd'hui une redistribution des forces du travail vers en tout cas une partie de l'économie qui était plutôt demandeuse. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc, je pense que pour Jérôme Powell, pour l'instant, il n'y a pas lieu de changer de cap. Il y a lieu de rassurer les marchés par rapport à ce cap et en tout cas à la pertinence de ce cap.
Vous dites l'essentiel du job a été fait en matière de remontée des taux. Néanmoins, il y a une question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on va arriver à ce plateau, à cette pause des taux américains?
Mais je pense qu'on y arrivera très très
Quelles
rapidement.
Quelles sont les anticipations?
Aujourd'hui, les questions se posent sont d'être à 4,75 sur le taux directeur américain. Les marchés anticipent 5,1. Les économistes, les gens les plus hawkish, je pense qu'on pourrait aller jusqu'à 5,25, 5,5. Je pense que l'idée de pousser jusqu'à 6 a été abandonnée par la plupart.
Et ça nous emmènerait jusqu'à cet été.
Mais donc ça veut dire que au plus jusqu'à cet été, on serait encore dans ce cycle de hausse de taux et puis on serait sur ce plateau, en tout cas où la Fed pourrait plateau considéré par certains comme un pivot, où on pourrait avoir une Fed plus attentiste, plus data dependent comme elle l'a évoqué par le passé. Et je pense que tant aux États-Unis qu'en Europe, on va être dans cette en tout cas posture, en tout cas d'être data dependent et de voir en tout cas comment l'économie digère évidemment ces hausses de taux, puisqu'on sait qu'il y a un effet retard de celle-ci sur l'économie. Mais jusqu'ici, enfin, on a le rythme de hausse de taux l'un des plus élevés de ces 40 dernières années qui a été réalisé aux États-Unis, sans trop d'accidents industriels, j'ai envie de dire, à part le marché immobilier qui ralentit fortement, qui était déjà à la peine du fait de prix élevés. Et là, évidemment, l'augmentation des taux pour les prêts hypothécaires qui a remonté en flèche au-delà de 6% rend ce marché immobilier encore d'autant plus indigeste. Mais hors de cela, on voit que les entreprises continuent à investir, on voit que les ménages finalement bénéficient toujours, en tout cas d'une partie du bas de laine accumulé durant les périodes de confinement, et la consommation demeure relativement résiliente compte tenu des circonstances.
Vous avez soulevé un point intéressant, vous dites il y a un décalage entre les hausses de taux et leur impact sur l'économie. Est-ce que les banques centrales, et pas uniquement la Réserve fédérale américaine, n'ont pas tapé trop fort et qu'on risque de découvrir les effets assez durs sur l'économie dans quelques mois ?
C'est possible, mais objectivement, à ce stade, il est difficile de les entrevoir. Alors, je pense que les consommateurs étaient dans une situation bilantaire financière qui était relativement solide, du fait aussi de l'accumulation d'épargne durant les périodes de confinement. Il faut savoir que beaucoup de Français, beaucoup d'Européens...
Ça concerne les plus riches. Hein,
beaucoup d'Américains. Oui, mais aujourd'hui, sur votre livret A, pour finalement une large part de la population, vous avez aujourd'hui une rémunération qui a fortement augmenté. Je pense qu'on retrouve du rendement sur des produits cash aux États-Unis et en Europe. Donc, il y a aussi un effet bénéfique des taux. On savait qu'on avait des marchés immobiliers. Je pense qu'ici, en France, comme partout en Europe, on voit qu'il y a, en tout cas dans les grandes capitales, on voit que les prix immobiliers étaient fort tirés. Quelque part, les taux pourraient entraîner une saine correction, en tout cas, de ces prix immobiliers. Jusqu'ici, c'est plutôt ce qu'on voit. On ne voit pas de crash produit. Il n'y a pas de raison. Mais enfin, en tout cas, un certain retour à la normale. Sur le monde de l'entreprise, je pense que, comme les ménages, on avait vu venir ces hausses de taux. Donc, on a pu anticiper. Ça fait 10 ans qu'on a des taux au plancher. Les entreprises ont allongé la maturité de leur dette, ont réduit la charge moyenne de leur dette, les entreprises comme les États. Des États forts endettés comme la France, la Belgique, l'Italie, aujourd'hui finalement souffrent évidemment de l'augmentation des taux et de la charge d'intérêt sur leur dette, mais la maturité de leur dette, maturité moyenne, fait que finalement le vrai problème ne se posera que dans 2-3 ans. Donc on verra à ce moment-là ce qu'il en est, mais on voit que ça n'a pas d'impact significatif sur les bilans des entreprises ou sur le bilan des États à très court terme. Et par ailleurs, il y a évidemment des effets bénéfiques à ces hausses de taux, contraintes de l'inflation, contraintes de l'augmentation des coûts pour les entreprises, et ainsi de suite. Donc, il n'est pas certain qu'il faille passer par la case récession sévère pour contraindre l'inflation. Par ailleurs, et on le voit tous les jours, l'inflation en Europe, c'était essentiellement les prix de l'énergie. Ceci reflue sensiblement, ce qui fait que même en Europe, on peut à ce stade de l'année être relativement positif quant à une inflation qui pourrait potentiellement retrouver le niveau de l'objectif de la Banque Centrale Européenne.
Cela dit, on a une inflation sous-jacente, l'indice core, qui reste assez élevée aussi bien en Europe qu'aux États-Unis.
Ça reste évidemment la question pour les banquiers centraux, mais je pense qu'il y avait beaucoup dans l'inflation core d'effets de second tour liés à ce premier élément exogène qui était le prix de l'énergie. On verra évidemment dans les mois à venir si, comme l'inflation CPI et l'inflation core commencent à marquer le pas. Je le pense très sincèrement. Je pense que le resserrement monétaire qui a été opéré, plus le ralentissement conjoncturel qui est inéluctable, je pense qu'on pourrait a priori éviter la récession en Europe et aux États-Unis, mais ralentissement conjoncturel il y aura, on parle de stagnation, va a priori contraindre cette dernière force inflationniste à l'œuvre au niveau de l'inflation sous-jacente. Ce qui fait que, d'un point de vue économique, et certainement pour les investisseurs, on est dans un contexte, ici à l'entame de 2023, qui est plus favorable que nous l'avions craint. Le maître mot en termes de croissance, c'est résilience. L'inflation aujourd'hui baisse plus rapidement que prévu. On a par ailleurs un effet d'aubaine, la réouverture de la Chine qui vient rajouter un peu de la croissance au niveau mondial, à tel point que le FMI a récemment revu ses perspectives de croissance à la hausse. Et pour les banques centrales, se rendre compte finalement qu'il y a une politique qui jusqu'ici, malgré sa violence, malgré sa rapidité, a été finalement très efficace.
Mais justement, est-ce que le redémarrage de l'économie chinoise, c'est pas un danger pour l'inflation au niveau mondial ? La Chine qui pourrait, avec ce redémarrage, consommer davantage d'énergie,
oui.
Donc faire remonter les prix du pétrole, notamment, ça peut donner peut-être apporter une deuxième vague d'inflation ?
Certainement, il faudra le voir. Alors la Chine repart très fort, très vite. Je pense qu'on le voit assez fort dans les artères parisiennes où les touristes chinois sont de retour et en masse. Donc, il est certain que la consommation chinoise, l'accumulation d'un stock d'épargne tout à fait gigantesque, je pense qu'on évoque le chiffre de 2,6 trilliards de dollars d'excédent d'épargne par les ménages chinois. Donc,
à l'échelle du pays.
Voilà, donc à l'échelle du pays, c'est le PIB de la France. Donc, il est certain que les Chinois, comme nous, post-Covid, auront cette envie de consommer, de voyager, d'utiliser leur voiture, donc d'utiliser potentiellement plus de matières premières. C'est un risque. N'oublions pas aussi que l'inflation initialement était un problème lié aux disruptions dans les chaînes logistiques qui, elles, se sont totalement estompées. Donc, quelque part, il y a un peu du pour et du contre. Certainement plus de consommation d'énergie. N'oublions pas que la Chine multiplie les accords stratégiques avec la Russie où elle peut s'approvisionner en gaz et pétrole à relativement meilleur marché que sur les marchés internationaux. Donc, n'oublions pas qu'une partie de la demande chinoise pourrait finalement être redirigé vers un marché auquel faisait peut-être relativement peu appel par le passé. Donc, ce n'est pas nécessairement négatif, c'est un risque, mais il y a également des aspects positifs à cette réouverture chinoise sur l'inflation et sur la croissance.
Mais votre sentiment au global, c'est que le pire a été évité. Les banques centrales nous disaient il y a encore quelques mois qu'elles n'hésiteraient pas à plonger les économies en récession pour combattre l'inflation. Aujourd'hui, on a eu quoi, deux trimestres de récession, enfin de recul du PIB aux États-Unis, oui. Ce qui constitue techniquement une récession, mais on en est vite sorti, et en Europe, on devrait pouvoir l'éviter.
Oui, je pense qu'en juin 2022, moi et la plupart de mes confrères, on était évidemment particulièrement inquiets pour les perspectives économiques, une inflation à deux chiffres, une crise énergétique dont on n'entrevoyait pas la fin. C'était potentiellement le scénario du pire, des banques centrales obligées d'en rajouter une couche, une récession potentiellement très forte en 2023, et à l'entame de 2023, l'essentiel de ces soucis se sont estompés. Donc oui, je pense qu'on vit des temps extraordinaire, dont je me garderai bien d'évoquer ici des grandes certitudes quant au prochain mois, mais en tout cas au trimestre ou deux à venir, on est dans une configuration qui est évidemment relativement porteuse et relativement rassurante de mon point de vue. N'oublions cependant pas cette épée de Damoclès qui demeure l'élément déclencheur de nos maux économiques et inflationnistes, le conflit en Ukraine qui demeure bien entendu latent, qui peut évidemment se détériorer chaque jour. Donc à la fois l'entame 2023, je l'entame avec enthousiasme, avec plus de prise de risque, notamment sur les marchés financiers, sur les marchés de crédit, sur certains marchés d'actions, certains marchés émergents, que ce soit en termes obligataires, que ce soit en termes actions sur les marchés chinois, mais avec tout de même une certaine dose de prudence. On ne sort pas toute voile dehors. Je pense qu'il y a encore ces risques-là qui perdurent et les incertitudes qu'on peut avoir, notamment en termes de perspectives inflationnistes liées à la réouverture de la Chine que vous évoquiez il y a un instant.
Mais vous travaillez toujours sur un scénario central et des scénario alternatif.
Voilà, alors le scénario central, on vient de le discuter. Je pense que, évidemment, il y a vraiment pas mal de downside qui perdurent, les incertitudes sur l'inflation. Est-ce que les banques centrales devraient, au cas où je suis dans l'erreur ici, en faire davantage? Downside lié au conflit en Ukraine, lui aussi. Chaque jour, ce conflit peut déraper. Donc oui, je pense que scénario de base relativement, finalement, positif. Beaucoup de downside, quand même, en tout cas en termes de probabilité. Ce qui tranche dans le contexte actuel, c'est vrai qu'on peine à avoir un scénario avec beaucoup d'upside. Pour cela, je pense qu'il faudrait qu'on ait en tout cas un contexte géopolitique qui se pacifie. Or, on le voit encore entre les États-Unis et la Chine, c'est pas en train de s'arranger pour l'instant. On le voit sur le dossier ukrainien que c'est pas le cas non plus. Donc, je pense que ces deux dossiers continueront évidemment à, en tout cas, pourrir la vie des investisseurs, si je puis m'exprimer ainsi. Continueront en tout cas à donner de l'incertitude sur le plan économique et des perspectives pour les agents économiques. Donc, ça nous place en 2023 avec malheureusement peu d'espoir de voir la croissance mondiale repartir de plus belle, revoir les échanges internationaux, la mondialisation repartir de plus belle. Il est certain qu'on est dans un contexte où on avance vers une globalisation plus multipolaire, qui sera moins bénéfique d'un point de vue inflationniste, moins bénéfique d'un point de vue croissance. Donc ça veut dire qu'en tant qu'investisseur, il faut être aujourd'hui beaucoup plus actif dans le déploiement, en tout cas, de nos capitaux sur les marchés financiers.
En tout cas, les investisseurs gardent le moral. Le CAC à Paris progresse de 10% depuis le début de l'année. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette tendance très positive sur les marchés actions?
Je pense qu'il y a réellement cette prime de risque par rapport au scénario du pire, de récession, d'inflation auto-entretenue qui est aujourd'hui écartée, en tout cas par les marchés financiers.
C'est-à-dire qu'on avait pricé un scénario beaucoup plus négatif?
Je pense que les marchés avaient clairement pricé un scénario plus négatif, spécifiquement les marchés européens d'ailleurs. Hein. Le marché de la résilience était les États-Unis l'an passé. Le marché européen, à nombre d'égards, vient ici rattraper et ça, en tout cas, ça s'observe encore aujourd'hui dans les valorisations du marché européen, qui même après la remontée de 10% que vous évoquiez, sont toujours aujourd'hui plus attractivement valorisées que le marché américain notamment. C'est notamment l'enthousiasme des investisseurs pour des thématiques liées à la réouverture de la Chine, sur le CAC spécifiquement. Je pense qu'aujourd'hui, le secteur du luxe, tout le monde est bien évident au courant que c'est un des secteurs qui bénéficiera évidemment de la réouverture de la Chine, mais également sur des thématiques où on sent que partout dans le monde, on investit massivement, des thématiques notamment de transition énergétique. Et là, c'est également une des forces de l'Europe que j'aimerais mettre en exergue, ça, en France notamment, en Allemagne ou de manière générale en Europe. On avait déjà depuis des années, en tout cas, mis des contraintes plus importantes en Europe, avec notamment une tarification du carbone, avec des règles environnementales beaucoup plus dures, avec des investissements publics au niveau des États membres, au niveau supranational, au niveau de la Commission européenne, qui fait qu'il y a tout un écosystème qui s'est développé en Europe en termes de transition énergétique, qui est évidemment, qui nous place, je dirais, en position de leader, aux côtés de la Chine d'ailleurs, il faut le signaler, dans cette matière. Et les États-Unis investissent aujourd'hui énormément dans ce domaine également. Et je pense que, malgré en tout cas les ratés de départ, ou en tout cas cette politique America First qui devrait s'adoucir dans les mois à venir, il y aura beaucoup de business à prendre ici pour les entreprises européennes, notamment sur cette thématique.
Une dernière parenthèse sur les valeurs financières. On a vu les résultats des banques américaines, les résultats de BNP Paribas. On a eu des records en Europe, BBVA en Espagne, UniCredit en Italie. La remontée des taux ramène un petit peu de... améliore les fondamentaux dans le secteur bancaire. Ça fait longtemps qu'on attendait.
Oui, ce qui est particulièrement intéressant, plaçons-nous dans la situation d'il y a 2-3 ans, plus aucune institution financière ne souhaitait finalement s'encombrer de cash, de dépôts de ses clients sur son bilan, parce que ces dépôts coûtaient de l'argent. On avait un taux de dépôt négatif à la BCE qui était de moins de 50 points de base. Donc,
ce qui était quand même une anomalie.
Ce qui était une anomalie, ce qui coûtait au secteur bancaire. Aujourd'hui, dans une configuration, le taux de dépôt est à 2% à la BCE. D'ailleurs, regardez un petit peu l'encours de la facilité de dépôt à la BCE, on les a des niveaux stratosphériques aujourd'hui. Les banques sont aujourd'hui très demandeuses de l'épargne des ménages, qu'elles rémunèrent toujours fort peu, seule exception la France, où la réglementation impose une tarification plus favorable. Mais partout en Europe, je regardais les chiffres de la BCE encore ce matin, on est sur une rémunération de l'épargne qui est aux alentours de 10 points base, alors que vous avez une rémunération overnight à 2% auprès de la BCE. Donc les revenus en termes de taux d'intérêt du système bancaires européens sont aujourd'hui tout à fait importants. L'épargne est à nouveau un produit qui rapporte au système bancaire européen. J'aurais rajouté à cela le fait que pas de récession ou en tout cas pas de récession forte, ça veut dire que finalement les risques sur les bilans bancaires diminuent lui aussi. J'aurais rajouté à cela que le secteur bancaire européen a été fondamentalement réformé ces 15-20 dernières années, avec notamment des ratios de solvabilité qui ont été renforcés comme rarement. On a des ratios de solvabilité qui ont augmenté de près de 50% pour la plupart des banques européennes. Donc on a à la fois des fondamentaux solides et une perspective, en tout cas en termes de génération de revenus, qui est tout à fait favorable compte tenu de l'évolution des taux d'intérêt. On parlait finalement des externalités positives du resserrement monétaire de la BCE. Bah, en tout cas, pour les banques, c'est quelque chose qui est plutôt bienvenu aujourd'hui en termes de rentabilité. Et c'est un des moteurs de performance aujourd'hui des marchés européens. Il ne faut pas oublier que les banques européennes sont un actif, en tout cas, déprécié, évidemment, particulièrement. Certainement, si on les compare aux banques américaines, quand on regarde les price to book, on est toujours sous 0,5 en moyenne pour le marché. Et il y a cette tendance des investisseurs à privilégier aujourd'hui, certainement en 2022, mais sur 2023 aussi, cette thématique de la value. Si on veut être positif sur la value, il faut être positif sur les banques. C'est 17% de l'indice des indices value. Et l'Europe est évidemment le poids lourd au sein de cet indice value. Donc voilà en tout cas un secteur qui se réjouit en tout cas du resserrement monétaire opéré par la BCE et par la Fed aujourd'hui.
Tout n'est pas négatif dans la montée des taux. Merci beaucoup Vincent.
Merci à vous.
JP Morgan Asset Management. Dans un instant justement, on parlera des marchés actions et de la bonne performance des valeurs bancaires à Paris. 2,1% de hausse pour BNP Paribas. Progression également pour Société Générale qui publiera ses résultats demain. Progression de 1,6%. On en parle après la pause.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
Dernière demi-heure pour BFM Patrimoine. Dans un instant, on parlera de l'épargne des Français avec une étude intéressante. On en parlera avec Philippe Dupuis, président du comité scientifique du Cercle des épargnants. À 11h45, ce seront les questions-réponses, vos questions et la réponse de notre spécialiste Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Mais d'abord, les marchés actions. La Bourse de Paris fait du surplace, plus 0,09%, 7143 points. On en parle avec Romain Daubry, spécialiste des marchés dérivés, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Rebonjour Romain, le CAC fait du surplace, mais on a une très très belle performance des valeurs bancaires notamment.
Effectivement, ça fait partie des secteurs forts en ce moment et qui continuent à surperformer. Il n'y a pas beaucoup de secteurs qui surperforment ces derniers temps, l'indice CAC 40 qui est quand même très fort, et c'est un des rares. En plus, les valeurs bancaires dépassent, et même si on le prend sous forme de panier, sont en train de déborder des niveaux de résistance majeurs. Donc, ça fait partie effectivement des expositions intéressantes à avoir. On voit qu'il y a toujours beaucoup de résilience dans ce marché, même si on assiste un peu à une consolidation, à une pause. Elle est toujours forte, cette consolidation. On voit du côté des marchés dérivés qu'il y a eu du soutien dans la hausse et surtout qu'il n'y a pas de pression baissière. C'est-à-dire que quand on a baissé hier de façon assez marquée sur l'indice parisien, plus d'1%, il n'y a pas eu de nouveaux contrats futurs ouverts. Au contraire, c'est plutôt de la prise de bénéfice et une petite prise de bénéfice par rapport à ce qu'on a connu comme intérêt par ailleurs. Et puis, on constate aussi qu'il y a toujours de la protection, de la couverture dans les portefeuilles, que la volatilité ne se détend pas sur les niveaux actuels.
Merci beaucoup pour ce point marché, Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. On va parler de l'épargne des Français maintenant. Il est 11h36.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
Avec Philippe Dupuis, président du comité scientifique du Cercle des épargnants. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez publié, le Cercle des épargnants a publié son baromètre 2023, Les Français, l'épargne et la retraite, avec des enseignements intéressants. On va le regarder ensemble. D'abord, 2 personnes sur 5 s'informent régulièrement de l'évolution des produits financiers et à propos de l'épargne. Ça, c'est un chiffre en très forte hausse.
Alors, c'est un chiffre en très forte hausse. J'ajoute que je suis professeur à Grenoble École de Management, puisque c'est un travail commun. C'est un chiffre en très forte hausse. On voit que les Français s'intéressent de plus en plus à l'épargne. On fait ce baromètre depuis 20 ans maintenant et on voit que ce chiffre a bondi depuis 2 ans. Je vous donne juste un chiffre. On est passé de 25% de Français qui s'intéressaient aux produits de placement, qui s'intéressaient à l'épargne il y a 2 ans. Maintenant, on est plutôt à 38-40%.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme et même si on élargit aux questions financières, on atteint 50% aujourd'hui.
Autre enseignement, la volonté d'épargner reste stable. Ça, c'était pas forcément gagné d'avance avec, évidemment, l'inflation, la pression sur le pouvoir d'achat. 32% des Français veulent épargner.
Ouais, alors il y a une polarisation, en fait, des Français face au comportement d'épargne. Vous avez un côté des Français qui peuvent épargner et qui veulent continuer à épargner, notamment épargne de précaution, épargne pour la retraite. Et puis, il y a une autre partie des Français, quand même, il faut bien le dire.
Qui ont du mal à le faire.
Voilà, qui ont du mal à le faire et qui savent qu'ils vont désépargner avec des questions de pouvoir d'achat. Derrière, hein, bien sûr.
On va remettre le chiffre en perspective. Hein. 32% qui souhaitent épargner, c'est largement au-dessus des niveaux de 2017 et 2018.
Ouais. Donc c'est bien parce qu'il y a une inquiétude face à l'épargne de long terme, donc face à la retraite, qu'une partie des Français, et je le rajoute, hein, c'est ceux qui peuvent le faire, veulent épargner de plus en plus.
Quels sont les produits d'épargne préférés des Français, ceux qui sont aujourd'hui les plus plébiscités?
Alors, on a un changement majeur aujourd'hui sur les produits d'épargne qui sont préférés. On a d'abord le livret A, les comptes sur livret, qui sont repassés devant l'assurance mie et très fortement, parce que les taux d'intérêt qui sont servis...
On est à 3%
sur
le livret.
Voilà, 3%, vous le dites, sont beaucoup plus intéressants. On va voir les comptes à terme, sûrement, hein, qui vont devenir intéressants. L'assurance vie reste derrière toujours favorable. Mais il y a aussi une prise de risque qui est plus importante de la part des Français, qui est visible dans notre baromètre.
Sujet d'actualité, la retraite, avec aujourd'hui une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Interrogation sur l'évolution de la retraite, est-ce que ça pousse les Français à épargner davantage, justement, pour le jour où ils ne seront plus sur le marché du travail?
Ouais, c'est quelque chose qu'on voit dans le baromètre. Effectivement, les Français veulent épargner un peu plus. Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils sont prêts à cotiser un peu plus pour les retraites, que ce soit au régime général, mais aussi sur les régimes à capitalisation, hein, donc sur les complémentaires. Notamment les jeunes sont prêts à le faire, parce qu'ils ont intégré, en fait, que le système de retraite pouvait être en difficulté à moyen terme.
Ça veut dire quoi, selon vous, de cette évolution? Qu'on va aller de plus en plus vers un système où la capitalisation, la retraite par capitalisation, prendra de l'importance?
Alors ça, notre baromètre ne le capte pas, en fait. On n'a pas posé cette question-là. On voit simplement que les jeunes générations sont plus ouvertes à ce type de capitalisation. Et on voit aussi que les plans d'épargne retraite, qui ont juste 2-3 ans, hein, ça a été lancé il y a quelques années simplement, prennent de plus en plus d'ampleur, sont mieux compris par les Français et qu'en plus, ils demandent de plus en plus d'informations. Ils sont en manque d'informations et c'est ce qui les limite.
Ouais, 57% des Français déclarent désormais connaître le PER.
Ouais, c'est énorme, donc c'est une grande progression pour un produit qui n'a que 2 ou 3 ans. Alors on sait que c'est avantageux fiscalement, mais que l'argent est quand même bloqué jusqu'au moment de la retraite. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez bloquant.
Autre enseignement, il y en a vraiment beaucoup dans cette étude très intéressante. Oui, très riche. 7 Français sur 10 pratiquement se disent inquiets de l'avenir du système de retraite. Là, on est en plein dans l'actualité.
Exactement. Et alors, paradoxalement, ça, je pense que c'est un point intéressant, hein, c'était 90% des Français se disaient inquiets de la retraite il y a 5 ans. Donc, on a une baisse.
Ouais.
Alors, pourquoi on a une baisse? On peut faire plusieurs hypothèses. D'abord, il y a une part des Français qui sont favorables à la réforme et qui voient que le gouvernement a pris en main cette question des retraites. On a peut-être une autre part des Français qui, après 2-3 ans de quoi qu'il en coûte, pense que, contre le Covid, contre l'inflation, pense que l'État va pouvoir, grâce à l'endettement, couvrir le régime des retraites. Enfin, c'est vrai que globalement, on a quand même 70% des Français qui sont inquiets encore.
Mais vous dites parallèlement, l'inquiétude quand même vis-à-vis de sa propre retraite est toujours très forte.
Oui, c'est ça. Et notamment de la part des femmes. Hein, on a 66% des femmes qui, on le sait, ont des retraites hachées, enfin des carrières plutôt qui sont hachées. Et donc des petites retraites s'inquiètent beaucoup plus que le reste de la population française.
Un dernier mot avant de passer aux questions-réponses avec Jérôme Dédéian. Les inégalités entre les hommes et les femmes, on en parle beaucoup sur le marché du travail, c'est vrai aussi pour la retraite.
Et oui, c'est exactement ce qu'on voit sur le marché du travail, hein, où les femmes sont plutôt sur des emplois où la rémunération est moindre. Évidemment, les cotisations mécaniquement sont moindres, et donc ça se retrouve dans les retraites. Et en plus, elles ont souvent des carrières qui sont plus hachées que les hommes.
Mais est-ce qu'avec les efforts qui ont été faits en matière de parité sur le marché du travail, on peut espérer justement que ces différences vont progressivement être gommées à l'âge de la retraite?
Alors, on peut l'espérer, c'est ce que nous dit en tout cas le corps, hein, depuis dans ces rapports. On ne le capte pas tout à fait, nous, dans notre étude. En tout cas, nous, ce qu'on capte, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui interrompent leur carrière pour s'occuper de proches, de parents ou d'enfants. C'est-à-dire qu'on a quand même une convergence, même si les femmes restent très largement majoritaires.
Ce que vous dites dans votre étude concernant les inégalités et les inquiétudes au moment de la retraite, elles sont globalement moins importantes chez les jeunes générations.
Exactement, exactement.
Ouais. Ouais. Merci beaucoup d'être venu en plateau nous présenter les résultats de cette étude. Philippe Dupuis, président du comité scientifique du Cercle des épargnants. 11h41, c'est l'heure des questions-réponses.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Il va avoir la lourde tâche de répondre à toutes ces questions. Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine, rebonjour.
Rebonjour Stéphane.
Question de Jean de Paris qui nous dit « J'aimerais profiter sur mon contrat d'assurance vie des bons rendements de l'immobilier, mais je souhaite un investissement durable. Que me conseillez-vous ?»
Alors Jean sait que, évidemment, en assurance vie, vous savez que la palette des supports d'investissement possibles est très vaste, hein, avec les unités de compte, et notamment si le contrat est bon, bah, il propose différents supports immobiliers, historiquement plutôt des SCPI, des OPCI, et puis désormais un choix étendu de sociétés civiles à vocation immobilière, soit diversifiées, soit thématiques. Et donc Jean peut commencer par regarder la liste des supports qui sont éligibles à son contrat, hein, puisque ça dépend vraiment de la façon dont le contrat est monté et de la façon dont la compagnie a rendu éligible ou non, en architecture ouverte ou non, des supports, pour regarder s'il y en a qui lui conviennent. Évidemment, s'il n'est pas content, il peut toujours changer, vous le savez, soit transfert intra-compagnie, soit tout simplement ouvrir un nouveau contrat, et puis de l'alimenter sous le radar des plus-values avec les abattements de 4600 ou de 9200 euros de plus-value possible pour chaque foyer fiscal par an. Alors, si on répond précisément à sa question, nous, il y a un fonds qu'on apprécie particulièrement et qui pourrait cocher les cases de ce que demande Jean, c'est la société civile, donc c'est une société civile, un Novaxia R du groupe Novaxia. On la retrouve en assurance vie, on la retrouve aussi en PER, hein, sur les compagnies qui sont en architecture largement ouverte. En fait, on l'aime bien parce qu'elle propose un univers d'investissement ou un modèle d'investissement à valeur ajoutée qui est très responsable et assez original. En fait, elle recycle des anciens biens immobiliers professionnels ou industriels en immobilier résidentiel, en particulier partout où les zones immobilières sont tendues pour le logement résidentiel, notamment la petite couronne parisienne. et elle répond en fait aux critères de durabilité de Jean pour sa sélection, puisque elle a une démarche, quand elle rénove, de zéro artificialisation des sols. Elle a une démarche de prêt temporaire des locaux à des associations. Et donc, elle a à la fois le label ISR et le label Finansol. Dernier point sur cette société civile Novaxia Air, donc qu'on aime bien et qui pourrait correspondre aux critères de Jean. Elle a quand même eu un rendement de 5,04 l'année dernière, donc très robuste. Vous savez que la moyenne des fonds immobiliers, c'était 4,70 l'année dernière. Donc voilà, un très bon fonds, Novaxia Air du groupe Novaxia, société civile, pour le contrat d'assurance vie de Jean, contrat d'assurance vie existant ou à venir, si elle n'est pas référencée.
On reste dans l'immobilier, mais avec un sujet complètement différent. Question de Gwenaël qui nous dit « J'ai 31 ans et j'envisage à moyen terme un investissement dans le viager. Par contre, la possibilité d'avoir des travaux à réaliser dans un bien qui ne nous rapporte rien dans un premier temps me freine. » Question donc assez générale, mais que pensez-vous du viager? Je crois qu'il y a eu 10 000 transactions en 2021, c'était un pic. Hein.
Absolument. Et donc, ça se développe. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément, avec le vieillissement de la population, de gens qui sont propriétaires de leur logement et qui ont besoin de le monétiser pour vivre. On a d'ailleurs, nous, un partenaire qui s'appelle Monetivia, avec lequel on peut faire des opérations pour des clients qui ont des biens immobiliers dans lesquels ils veulent continuer à habiter, mais qui voudraient en tirer des revenus, notamment pour accompagner la fin de leur vie, leur retraite et la fin de leur vie. Alors, on peut dire à Gadaël qu'investir dans l'immobilier en viager, c'est bien acheter le logement d'une personne à qui on va verser une rente périodique jusqu'à son décès, qui est une date par nature aléatoire. Et donc, tout le monde a en tête le film de Pierre Tchernia. Les plus jeunes doivent absolument le voir parce qu'il est hilarant. Voilà, le viager. Bon. Cette rente qu'on promet peut s'accompagner d'un bouquet, c'est-à-dire d'une somme qu'on paye tout de suite.
Je crois qu'en moyenne, elle est de 30-31%.
Exactement.
Mais on la fixe librement.
On la fixe parce que finalement, c'est un calcul de mathématiques financières qui dépend de l'espérance de vie du propriétaire à qui on achète son bien immobilier en viager. Alors, il y a un avantage en tant qu'acheteur, si on essaye de dire les choses très simplement à Gwenaël, qui est de pouvoir échelonner son paiement dans le temps sans avoir recours à un prêt traditionnel auprès d'une banque. Ça permet d'éviter les frais qui vont avec le prêt. Et dans un contexte de remontée des taux d'intérêt, c'est pas complètement anodin. Et le viager reprend, on va dire, si vous me passez l'expression, du poil de la bête. En contrepartie, le problème, c'est évidemment l'aléa de la date de décès du propriétaire, puisqu'on ne sait pas combien de temps on va payer la rente. Donc on peut faire une très bonne opération s'il meurt tôt et une moins bonne opération s'il vit comme Jeanne Calment.
On se rappelle de son notaire qui lui avait acheté son appartement en viager en 1965 et il était décédé avant elle.
Exactement. Alors après, donc c'est ça le principe du viager. Donc il faut bien que Gwenaël sache si elle accepte les avantages en contrepartie du risque de longévité de son vendeur. Alors après, Gwenaël nous dit qu'elle est freinée par la possibilité d'avoir des travaux à réaliser. C'est une question dans le viager qui est très très importante, une composante à prendre en compte, parce que la répartition du paiement des charges entre le vendeur et l'acheteur diffère selon les types de biens et les clauses du contrat de vente en viager qu'on conclut. Il y a deux types de viager. Un viager libre, donc on peut disposer du bien immédiatement pour l'occuper ou le louer.
Ça, par exemple, quand une personne âgée part en maison de retraite.
Exactement, mais dans ce cas, les réparations sont à la charge de celui qui a acheté et qui occupe le bien. Mais on a en face les entrées de loyer si c'est loué et pas pour habiter. Il y aura donc, un retour sur investissement à moyen terme. Dans le cas d'un viager occupé, le vendeur conserve l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'usage ou le droit de percevoir les revenus locatifs, et on ne peut occuper le logement qu'au décès du vendeur. Et dans ce cas, les réparations courantes sont à la charge du vendeur et les gros travaux sont à la charge de l'acheteur. Et donc ça, c'est important parce qu'on peut avoir à réaliser des travaux en cas de viager occupé alors qu'on ne peut pas encore occuper le bien puisque le vendeur est toujours dedans jusqu'à sa date de décès.
Ça peut concerner la rénovation énergétique?
Alors, ça peut concerner évidemment la rénovation énergétique. Et donc, en tout état de cause, ce qui est très important si on conclut un contrat d'achat en viager, c'est évidemment de bien veiller à la façon dont est décrite la répartition de la prise en charge des travaux dans la transaction. Voilà ce qu'on peut dire à Gwenaël.
71% des ventes se font en viager occupé, 29% en viager libre. Le viager occupé, c'est vraiment l'immense majorité. Question de Élodie. En fait, deux questions qui concernent l'assurance vie. Pourquoi est-il si compliqué de savoir combien un contrat d'assurance vie coûte? Je trouve que les frais ne sont pas clairs. Pouvez-vous faire un récapitulatif des frais qui sont prélevés? Nous dit Élodie.
Alors, donc là, Élodie...
On parle d'une assurance vie luxembourgeoise en unité de compte.
Alors, luxembourgeoise ou... Enfin, je vais répondre pour tout contrat d'assurance vie, qu'il soit luxembourgeois ou compagnie de droit français. En fait, alors Élodie est sévère parce que quand même, on a beaucoup progressé en transparence de l'affichage des frais avec toutes les contraintes qu'on a dans les documents d'information qui sont mis à la disposition du souscripteur, de l'épargnant, etc. Bon, après, on peut dire que les différents frais d'un contrat d'assurance vie, pour rester simple, peuvent se diviser en deux catégories. Les coûts ponctuels, les coûts récurrents. D'accord. Ces frais sont communiqués sur le document d'information clé, et ce que je vais dire vaut pour évidemment les PER assurantiels et pas seulement pour les contrats d'assurance vie, qu'ils soient français ou luxembourgeois. Il y a d'abord des coûts ponctuels qui sont composés des frais d'adhésion. Je vais tout au bout. Hein. On va faire un inventaire à la Prévert pour être sûr de rien oublier. Les frais d'adhésion à l'association qui supervise le contrat, si le contrat est un groupe ouvert, c'est-à-dire souscrit par l'intermédiaire d'une association qui défend les intérêts des épargnants. Ça, c'est one-off, c'est coût ponctuel. Ensuite, il y a les frais d'entrée sur les versements. Chaque fois que je verse, on peut me prélever entre 0 et jusqu'à pour les contrats les plus chargés, 5% de versement, qui sont souvent acquis aux distributeurs. Donc là, il faut bien voir à qui vous vous adressez quand vous souscrivez votre contrat pour savoir si vous pouvez, et c'est un peu la norme de marché aujourd'hui, c'est ce qu'on fait chez mon partenaire patrimoine, avoir 0% de droit d'entrée sur votre contrat. Ensuite, toujours en coût ponctuel, vous avez ce qu'on appelle les coûts d'arbitrage, quand vous changez de support de placement ou changez de mode de gestion, passez d'un mode de gestion piloté à un autre, il peut y avoir des frais, et donc il faut regarder à combien ils sont, est-ce qu'il y a des franchises, un certain nombre d'arbitrages gratuits par an avant, et surtout, vérifier qu'ils sont bien plafonnés. S'ils sont exprimés en pourcentage du montant arbitré, hein, pour que ça ne s'envole pas si vous avez beaucoup d'argent sur votre contrat. Et puis, dernier point, il y a parfois des frais de sortie. Alors, c'est vraiment dans les contrats pourris. Hein, et donc, normalement, il n'y en a pas. Mais il vaut mieux vérifier parce que ça peut exister. Et puis, vous avez, si vous décidez de sortir de votre contrat d'assurance vie en rente à vie, hein, la conversion du capital en rente, des frais d'arrérage qui, là aussi, peuvent être entre 0 et parfois 3 jusqu'à 4%. Donc, il faut regarder ça. Ça, c'est des coûts ponctuels.
Mais à vous entendre, il y a quand même beaucoup de frais.
Alors, ben non, il y a beaucoup de postes. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de frais. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les conditions générales et particulières de son contrat. Ensuite, il y a les coûts récurrents. Alors, évidemment, frais de gestion du contrat, hein, frais sur les fonds en euros, fonds euro, euro croissance, ou frais de gestion sur les fonds qui sont placés, du contrat qui sont placés en unité de compte. Et là, il faut bien vérifier, un, qu'ils sont dégressifs avec les encours de votre contrat. C'est normal de payer moins cher si on est un très très gros épargnant en pourcentage, hein, de l'épargne qu'on a. Et puis vérifier ce qu'il y a dedans, et notamment vérifier s'il y a des garanties techniques qui sont acquises et financées par ces frais, notamment par exemple une garantie de DAP de mortalité pour une sortie en rente, une éventuelle assurance d'essai complémentaire. Donc ne pas s'arrêter aux chiffres, bien regarder ce que le chiffre court. Est-ce que c'est juste la contrainte de fonds propres et la gestion de l'assureur, ou est-ce que j'ai des garanties techniques qui sont financées par ces frais à l'intérieur?
Donc lire le contrat ou se faire conseiller, quoi.
Exactement. Et puis après, évidemment, spécifiquement pour les fonds en euros, il faut vérifier le lien entre les frais de gestion et les clauses de participation aux bénéfices, et aussi ce qu'on distribue des résultats financiers prélevés pour les transactions qui sont à l'intérieur, payer les frais des transactions qui sont à l'intérieur du front euro. Dernier point, il y a évidemment les frais liés aux unités de compte du contrat, spécifiques aux unités de compte, hein, qui servent une performance nette. Et donc là, il y a des unités de compte plus ou moins chargées, qu'on soit dans des fonds internes dédiés ou des fonds d'assurance spécialisés dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, ou dans des fonds ouverts au PCVM qu'on a l'habitude de souscrire, SICAV ou fonds communs de placement. Il faut bien regarder, évidemment, si ces fonds ont des frais raisonnables et s'ils sont très correctement affichés. Bref, il y a plusieurs couches.
Ouais.
De frais, il y a différents postes, ils sont activés ou pas activés, et c'est la responsabilité de l'épargnant, quand il souscrit avec l'aide de son conseiller, de bien vérifier ce qu'il paye où, et qu'il n'y a pas de frais indus par rapport au service qui est délivré autour du contrat.
Et Élodie demande également, est-ce qu'il y a un avantage à choisir une assurance vie luxembourgeoise plutôt qu'une française?
Alors, les contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois ont un certain nombre de caractéristiques que n'ont pas les contrats français, qui sont les principaux avantages suivants. Hein. Premièrement, les dépôts des épargnants, hein, l'argent qu'ils investissent, est séparé à l'intérieur du bilan, de ceux des actionnaires et des créanciers de la compagnie d'assurance. Hein, et donc, fondamentalement, ce qu'on appelle le triangle de sécurité, en fait, il y a bien séparation dans le bilan, hein, entre ce qui sert pour les fonds propres et la propriété des actionnaires, et puis ce qui représente la contrepartie de l'épargne des épargnants. Et
donc c'est quoi? C'est un gage de sécurité?
Alors oui, parce que les épargnants ont un super privilège qui leur donne la qualité de créancier de premier rang en cas de difficulté financière de la compagnie. Ils récupèrent en priorité leurs créances, alors qu'en France, vous savez, on est couvert en cas de faillite d'une compagnie d'assurance qu'à hauteur de 70 000 euros par compagnie et par épargnant. Et puis le dernier avantage, donc c'est ce triangle de sécurité, hein, qui est le principal avantage du contrat luxembourgeois. Le deuxième avantage, c'est évidemment, notamment pour des gens qui ont des carrières internationales, puisque les compagnies d'assurance vie luxembourgeoises sont habituées à faire tourner la fiscalité de leurs souscripteurs partout dans leur pays de résidence. Donc ce sont des contrats qui sont parfaitement adaptés à des carrières à l'étranger.
Une dernière question, celle de Michael de Nantes, qui nous dit qu'il est difficile de s'y retrouver dans les différents fonds indiciels, les ETF proposés sur le marché, pour diversifier ses placements. Est-ce qu'il existe des fonds gérés qui s'appuient sur des stratégies indicielles?
Alors ça, c'est très intéressant, puisque normalement, quand on fait de l'indiciel, on veut s'asseoir sur le marché, et on décide de s'asseoir sur un indice, par exemple, etc. Et là, on est en face de Michael qui nous dit, est-ce que ça existe un fonds géré? Donc moi, je comprends, avec
d'accord,
une allocation...
D'accord, le meilleur des deux mondes, de la gestion passive et de la gestion...
Et de la gestion active, c'est-à-dire, ouais. Je fais de la gestion active avec mes anticipations des différentes classes d'actifs avec lesquelles je vais jouer en fonction de mes anticipations, mais je veux le faire en ETF pour que ce soit moins cher. Et bien, figurez-vous que quand c'est exactement comme on dit, there's an app for that, il y a une application quand on a un besoin sur son smartphone, et bien oui, il y a un fonds pour ça, disponible sur le marché. On l'a trouvé avec l'équipe et on l'utilise pour nos clients qui sont sensibles et qui veulent des ETF. C'est OFI Invest ESG Multitrack. Il a l'avantage qu'il a un positionnement équilibré, son indice de risque est de 4 sur 7 en indice SRRI AMF, il est diversifié euro international, investi sur les principales classes d'actifs et zones géographiques, avec un maximum de 30% sur les pays émergents, donc une allocation qui est raisonnable, mais qui est bien gérée activement par les anticipations de l'équipe de gestion d'OFI Invest, mais qui utilise en sous-jacent des ETF, et donc comme vous le savez, des fonds indiciels qui sont moins coûteux que des fonds à gestion active pure. Voilà, donc OFI Invest ESG Multitrack pourrait répondre aux besoins de Michael de vouloir une allocation gérée avec anticipation du gérant stratégique et tactique, mais en ETF.
C'est formidable de l'avoir trouvé, mais est-ce que sur le fond, c'est pas un petit peu contradictoire de chercher justement un fonds indiciel géré?
En fait, oui et non, puisque vous avez bien, dans ce cas-là, tout le bénéfice de la gestion indicielle, si vous pensez qu'elle a une valeur, c'est-à-dire, assis sur l'indice avec des frais moins élevés, je ne cherche pas à battre le marché, je cherche juste la performance du marché, mais quand même une allocation entre différentes classes d'actifs et zones géographiques qui permet d'anticiper. Évidemment, il faut payer le gérant pour ça, mais ça peut être utile et ça vous évite d'avoir à le faire vous-même à l'intérieur de votre compte-titres.
C'est un vieux débat dans la profession, est-ce que sur le long terme, finalement, on n'arrive pas au même résultat lorsqu'on place ces économies? Alors, sur...
Je reviendrai, tiens, vous me donnez une idée chronique, Stéphane, je reviendrai parler de fréquence de gains, parce que souvent on regarde la performance à long terme et on dit, c'est difficile de battre le marché, mais on oublie qu'un épargnant, il a généralement un horizon de temps, et que donc la fréquence de gains, combien de fois est-ce que la gestion active lui a rendu l'épargne qu'il a investie avec un bilan positif, est un indicateur qui est essentiel pour comprendre si on doit investir dans un fonds ou pas, et qui généralement donne de la valeur à la gestion active.
Donc l'affirmation qui consiste à dire la gestion passive fait aussi bien sur le long terme, c'est pas tout à fait exact.
Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais j'essaierai de le prouver chiffres à l'appui et dans une prochaine chronique dans cette émission, si vous le voulez bien, c'est une très bonne idée.
On prend date. Merci beaucoup Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Merci beaucoup pour les réponses aux questions de nos auditeurs et téléspectateurs. À suivre dans 4 minutes exactement sur notre antenne, 90 Minute Business avec Sandra Gandoin.
Bonjour, bonjour Stéphane.
Sandra. Quel est le sommaire?
On va parler de ce chiffre astronomique, 164 milliards d'euros déficit commercial de la France sur les biens qui s'est creusé en 2022, moins 86% au moins sur un an. On en parlera avec Thomas Asportas et Jean-Marc Daniel. Et puis, on va revenir aussi sur ce tremblement de terre en Turquie et en Syrie. 5000 victimes à l'heure où l'on parle et des usines sur place qui s'organisent. On sera en direct avec Christophe Piennoel, le porte-parole du groupe Lactalis, qui a 6 usines sur place et qui donc organise les aides d'urgence. Et puis, n'oubliez pas, la deuxième partie de l'émission, Lorraine Goumaud répond à vos questions, vous aide à recruter également, ce sera à partir de 12h55.
Merci beaucoup Sandra Gandoin et toute son équipe à suivre sur notre antenne. Je vous rappelle la séance en cours à la Bourse de Paris. Le CAC fait toujours du surplace. On est à 7143 points en progrès de 0,03% actuellement sur le CAC 40. L'info boursière et patrimoniale revient tout à l'heure à partir de 15h. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour BFM Bourse. À tout à l'heure.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.